Cinquième partie, le contrat de mariage. Chapitre 1, encore la maison d'or. On avait travaillé toute la nuit à l'hôtel de Gonzague. Les cases étaient vastes. Dès le matin, chaque marchand était venu meubler ses 4 pieds carrés. La grande salle elle-même avait ses loges toutes neuves, et l'on y respirait l'âcre odeur du sapin raboté. Dans les jardins, l'installation était complète aussi. Rien n'y restait des magnificences passées. Quelques arbres déshonorés se montraient encore çà et là, quelques sculptures au carrefour des 5 ou 6 rues de cabanes qu'on avait percées sur l'emplacement des parterres. Au centre d'une petite place, située non loin de l'ancienne niche de Médor et en face du perron de l'hôtel, on voyait sur son piédestal en marbre une statue mutilée de la pudeur. Le hasard a de ses moqueries. Qui sait si l'emplacement de notre bourse actuelle ne servira pas, dans les siècles à venir, à quelque monument candide. Et tout cela était plein dès l'aube. Les courtiers ne manquaient pas. L'art en enfance était déjà de l'art. On s'agitait, on se démenait, on vendait, on achetait, on mentait, on volait, on faisait des affaires. Les fenêtres de Madame la Princesse de Gonzague, qui donnaient sur le jardin, étaient fermées de leurs contrevents épais. Celles du prince, au contraire, n'avaient que leurs rideaux de lampasse brochés d'or. Il ne faisait jour ni chez le prince ni chez la princesse. Monsieur de Pérolles, qui avait son logement dans les combles, était encore au lit, mais il ne dormait point. Il venait de compter son gain de la veille et de l'ajouter au contenu d'une cassette de taille très respectable qui était à son chevet. Il était riche, ce fidèle monsieur de Pérolles. Il était avare, ou plutôt avide, car s'il aimait l'argent passionnément, c'était pour les bonnes choses que l'argent procure. Nous n'en sommes pas à dire qu'il n'avait aucune espèce de préjugé. Il prenait de toutes mains et comptait bien être un fort grand seigneur sur ses vieux jours. C'était le Dubois de Gonzague. Le Dubois du Régent voulait être cardinal. Nous ne savons pas précisément l'ambition de ce discret monsieur de Pérolles. Mais les Anglais avaient inventé déjà ce titre, Milord Million. Pérolles voulait être tout simplement Monseigneur Million. Gendry était en train de lui faire son rapport. Gendry lui racontait comme quoi ces 2 pauvres conscrits, Auriol et Montaubert, avaient porté le cadavre de Lagardère jusqu'à l'Arche Marion, où ils l'avaient précipité dans le fleuve. Pérolles bénéficiait de moitié sur le paiement des coquins employés par son maître. Il solda Gendry et le congédia. Mais celui-ci dit avant de partir. « Les bons vivants deviennent rares. Vous avez là, sous votre croisée, un ancien soldat de ma compagnie qui pourrait donner à l'occasion un honnête coup de main. Tu l'appelles ?»« La Baleine. Il est fort et stupide comme un bœuf. »« Engage-le, » répondit Pérolles. « Ceci par prudence, car j'espère bien que nous en avons fini avec toutes ces violences. »« Moi, » dit Gendry, « j'espère bien le contraire. Je vais engager la Baleine. » Il descendit au jardin où la Baleine était dans l'exercice de ses fonctions, essayant en vain de lutter contre la vogue croissante de son heureux rival, Ésope II, dit Jonas. Pérolles se leva et se rendit chez son maître. Il apprit avec étonnement que d'autres l'avaient devancé. Le prince de Gonzague donnait en effet audience à nos 2 amis, Coquardas Junior et frère Passepoil. Tous 2 en belle tenue, malgré l'heure matinale, brossés de frais, ayant fait déjà leur tour à l'office. « Mais drôle, commença monsieur de Pérolles, dès qu'il les aperçut, qu'avez-vous fait hier, pendant la fête ?» Passepoil haussa les épaules et Coquardas tourna le dos. « Autant il y a pour nous d'honneur et de bonheur, dit le gascon éloquent, à servir un illustre patron tel que vous, monseigneur, autant il est pénible d'avoir affaire à monsieur. « Pas vrai, Macaillou ?»« Mon ami, répondit Passepoil, a lu dans mon cœur. »« Vous m'avez entendu, » dit Gonzague, qui avait l'air exténué. « Il faut que vous ayez des nouvelles ce matin même, des nouvelles certaines, des preuves palpables. Je veux savoir s'il est vivant ou mort. » Coquardas et Passepoil saluèrent de cette ample et belle façon qui faisait d'eux les coupe-jarrets les plus distingués de l'Europe. Ils passèrent raides devant monsieur de Pérolles et sortirent. « M'est-il permis de vous demander, monseigneur, dit Pérolles déjà tout blême, De qui parliez-vous ainsi, vivant ou mort ? Je parlais du chevalier de Lagardère, répliqua Gonzague, qui remit sa tête fatiguée sur l'oreiller. Mais, dit Pérol stupéfait, pourquoi ce doute ? Je viens de payer Gendry. Gendry est un méchant coquin. Et toi, tu te fais vieillot, monce Pérol. Nous sommes mal servis. Pendant que tu dormais, j'ai déjà travaillé ce matin. J'ai vu Auriol et j'ai vu Montaubert. Pourquoi nos hommes ne les ont-ils pas accompagnés jusqu'à la Seine ? La besogne était achevée. Monseigneur a eu lui-même cette pensée de forcer deux de ses amis. Amis ? Répéta Gonzague avec un dédain si profond que Pérol resta bouche close. J'ai bien fait, reprit le prince. Et tu as raison. Ce sont mes amis. Tudieu ! Il faut qu'il le croie. Ce sont mes amis. De qui userait-on sans mesure sinon de ses amis ? Je veux les mater. Devines-tu cela ? Je veux les lier à triple nœud, les enchaîner. Si Monsieur de Horn avait eu seulement une centaine de bavards derrière lui, le régent se fût bouché les oreilles. Le régent aime avant tout son repos. Ce n'est pas que je craigne le sort fâcheux du prince de Horn. Il s'interrompit, voyant que le regard de Pérol était fixé sur lui avidement. Vive Dieu ! Dit-il avec un rire un peu contraint. En voici un qui a déjà la chair de poule. « Est-ce que vous en êtes à redouter quelque chose de monsieur le régent ?» demanda Pérol. « Écoute, » fit Gonzague, qui se souleva sur son coude, « je te jure devant Dieu que si je tombe, tu seras pendu. » Pérol recula de 3 pas. Les yeux lui sortirent de la tête. Gonzague, pour le coup, éclata de rire franchement. « Roi des trembleurs » s'écria-t-il. « De ma vie, je n'ai été si bien en cour. Mais on ne sait pas ce qui peut arriver. » En cas d'attaque, je veux être gardé. Je veux qu'il y ait autour de moi non pas des amis, il n'y a plus d'amis, mais des esclaves, non pas des esclaves achetés, mais des esclaves enchaînés, des êtres vivants de mon souffle, pour ainsi dire, et sachant bien qu'ils mourraient de ma mort. Pour ce qui est de moi, balbutia Pérol, monseigneur n'avait pas besoin. C'est juste. Toi, je te tiens depuis longtemps. Mais les autres... « Sais-tu qu'il y a de beaux noms dans cette bande ? Sais-tu qu'une clientèle semblable est un bouclier ? Navaille est de sang ducal. Montaubert est allié aux Mollets de Champlâtreux, des seigneurs de robes dont la voix sonne comme le bourdon de Notre-Dame. Choisy est le cousin de Mortemar. Nocé est l'allié des Lauzins. Gironne tient à Célamar. Chaverny au prince de Soubise. « Oh, celui-là !» interrompit Pérol. « Celui-là, dit Gonzague, sera comme les autres. Il ne s'agit que de trouver une chaîne à sa fantaisie. Si nous n'en trouvons pas, se reprit-il d'un air sombre, ce serait tant pis pour lui. Mais poursuivons notre revue. Taran est protégé par Monsieur Lowe en personne. Auriol, ce grotesque, est le propre neveu du secrétaire d'État Leblanc. Albret appelle Monsieur de Fleury mon cousin. Il n'y a pas jusqu'à cet épais baron de Batz qui n'ait ses entrées chez la princesse Palatine. Je n'ai pas pris mes gens à l'aveugle, sois sûr de cela. Vauménil me donne la duchesse de Berry, j'ai l'abbesse de Chelles par la petite saveuse. Par la sangbleu, je sais bien qu'ils me livreraient pour 30 écus, tous tant qu'ils sont. Mais les voici dans ma main depuis hier soir, et demain matin, je les veux sous mes pieds. Il rejeta sa couverture et sauta hors du lit. « Mes pantoufles » dit-il. Pérol s'agenouilla aussitôt et le chaussa de la meilleure grâce du monde. Cela fait, il aida Gonzague à passer sa robe de chambre. C'était une bête à toute fin. « Je te dis tout cela, mon ami Pérol, » reprit Gonzague, « car tu es mon ami, toi aussi. « Oh, monseigneur, allez-vous me confondre avec... »« Du tout !»« Il n'y en a pas un qui l'ait mérité. » interrompit le prince avec un sourire amer. « Mais je te tiens si parfaitement, mon ami, Pérol, que je te puis parler comme à mon confesseur. On a besoin parfois de faire ses confidences, cela récorde. Nous disions donc qu'il nous les faut pieds et poings liés. La corde que je leur ai mise au cou ne fait encore qu'un tour. Nous serrerons cela. Tu vas juger tout de suite combien la chose presse. Nous avons été trahis cette nuit. Trahis ? Se récria Pérol. « Et par qui ?»« Par Gendry, par Auriol et par Montaubert. »« Est-il possible ? Tout est possible tant que la corde ne les étranglera pas.
Et comment monseigneur sait-il ?
Demanda Pérolle.
Je ne sais rien, sinon que nos coquins n'ont pas fait leur devoir.
Gendry vient de m'affirmer qu'ils avaient porté le corps à l'arche Marion.
Gendry a menti.
Je ne sais rien.
J'avoue même que je renonce difficilement à l'espoir d'être débarrassé de ce démon de Lagardère.
D'où vous viennent ces doutes ?
Gonzague prit sous son oreiller un papier roulé et le déploya lentement.
Je ne connais guère de gens qui voulussent se moquer de moi, murmura-t-il. Ce serait un jeu dangereux qu'une semblable espièglerie vis-à-vis du prince de Gonzague.
Pérolle attendait qu'il s'expliquât plus clairement.
Et d'un autre côté, poursuivit celui-ci, ce Gendry a du moins la main sûre. Nous avons entendu le cri d'agonie.
Que vous dit-on là-dedans, monseigneur ?
Demanda Pérolle au comble de l'inquiétude.
Gonzague lui passa le papier déroulé, et Pérolle lut avidement. Le papier contenait une liste ainsi conçue.
Le capitaine Lorrain, Naples. Stopitz, Nuremberg. Pinto, Turin. El Matador, Glasgow. Joël de Jugan, Morlaix. Faenza, Paris. Saldagne, idem. Pérolle, Philippe de Mantoue, prince de Gonzague.
Ces deux derniers noms étaient écrits à l'encre rouge ou au sang. Il n'y avait point de nom de ville à leur suite, parce que le vengeur ne savait pas encore en quel lieu il devait les punir. Les sept premiers noms, écrits à l'encre noire, étaient marqués d'une croix rouge. Gonzague et Pérolle ne pouvaient ignorer ce que signifiait cette marque. Pérolle avait le papier entre les mains et tremblait comme la feuille.
« Quand avez-vous reçu cela ? » balbutia-t-il.
« Ce matin, de bonne heure, mais pas avant que les portes ne fussent ouvertes, car j'entendais déjà le bruit infernal que font tous ces fous dedans et dehors. »
Par le fait, c'était un assourdissant tapage. L'expérience n'avait pas encore appris à régler une bourse et à donner au tripot un joli air de décence. Tout le monde criait à la fois, et ce concert de voix tonnait comme le bruit d'une émeute.
Mais Pérolle songeait bien à cela.
« Comment l'avez-vous reçu ? » demanda-t-il encore.
Gonzague montra la fenêtre qui faisait face à son lit et dont un des carreaux était brisé. Pérolle comprit et chercha des yeux sur le tapis, où il vit bientôt un caillou parmi les éclats de vitre.
« C'est cela qui m'a éveillé, » dit Gonzague. « J'ai lu, et l'idée m'est venue que Lagardère avait pu se sauver. »
Pérolle courba la tête. « À moins, » reprit Gonzague, que cet acte audacieux n'ait été exécuté par quelque affidé ignorant le sort de son maître.
« Espérons-le, » murmura Pérolle.
« En tout cas, j'ai mandé sur le champ Auriol et Montaubert. J'ai faim de tout ignorer. J'ai plaisanté, je les ai poussés. Ils m'ont avoué qu'ils avaient déposé le cadavre sur un monceau de débris dans la rue Pierre-Lescot. »
Le poing fermé de Pérolle frappa son genou.
« Il n'en faut pas davantage !» s'écria-t-il. « Un blessé peut recouvrer la vie. »
Nous saurons dans peu le vrai de l'affaire. Cocardas et Passepoil sont sortis pour cela.
« Est-ce que vous vous fiez à ces deux renégats, monseigneur ?»«
Je ne me fie à personne, ami Pérolle, pas même à toi. Si je pouvais tout faire par moi-même, je ne me servirais de personne. Ils se sont enivrés cette nuit. Ils ont eu tort, ils le savent. » Raison de plus pour qu'ils marchent droit. Je les ai fait venir, je leur ai ordonné de me trouver les deux braves qui ont défendu cette nuit la jeune aventurière qui prend le nom d'Aurore de Nevers. »
Il ne put s'empêcher de sourire en prononçant ce dernier mot. Pérolle resta sérieux comme un croque-mort.
« Et de remuer ciel et terre, acheva Gonzague, pour savoir si notre bête noire nous a encore échappé. »
Il sonna et dit au domestique qui entra.
« Qu'on prépare ma chaise !»
« Toi, mon ami Pérolle, reprit-il, tu vas monter chez madame la princesse, afin de lui porter, comme d'habitude, l'assurance de mon respect profond. Tâchons d'avoir de bons yeux. Tu me diras quelle physionomie a l'antichambre de madame la princesse, et de quel ton sa camériste t'aura répondu.
Où retrouverai-je monseigneur ?
Je vais d'abord au pavillon. J'ai hâte de voir notre jeune aventurière de la rue Pierre-Lescot. Il paraît qu'elle et cette folle de Donna Cruz font une paire d'amis. J'irai ensuite à l'hôtel de M. Lowe, qui me néglige, puis je me montrerai au palais royal, où mon absence ne ferait pas bien. Qui sait quelle calomnie on pourrait répandre sur mon compte?
Tout cela sera long.
Tout cela sera court. J'ai besoin de voir nos amis, nos bons amis. Cette journée ne sera pas oisive, et je médite pour ce soir certains petits soupers. Mais nous reparlerons de cela. »
Il s'approcha de la fenêtre et ramassa le caillou qui était sur le tapis.
« Monseigneur, dit Pérol, avant de vous quitter, souffrez que je vous mette en garde contre ces deux chenapans.
Cocardas et Passepoil ?
Je sais qu'ils t'ont fort maltraité, mon pauvre Pérol.
Il ne s'agit pas de cela. Quelque chose me dit qu'ils trahissent.
Et tenez, s'il fallait une preuve, ils étaient à l'affaire des fossés de Caylus. Et cependant, je ne les ai point vus sur la liste de morts. »
Gonzague, qui considérait le caillou d'un air pensif, déplia vivement le papier qu'il avait repris.
« Cela est vrai, murmura-t-il. Leur nom manque ici. Mais si c'est Lagardère qui a dressé cette liste, et si nos deux coquins étaient à Lagardère, il eût mis leur nom les premiers pour dissimuler la tromperie.
Ceci est trop subtil, monseigneur. Il ne faut rien négliger dans un combat à outrance. Depuis hier, vous pontez sur l'inconnu. Cette créature étrange, ce bossu qui est entré comme malgré vous dans vos affaires.
Tu m'y fais penser, interrompit Gonzague. Il faut que celui-là me vide son sac jusqu'au fond.
Il regarda par la croisée. Le bossu était justement au-devant de sa niche et dardait un coup d'œil perçant vers les fenêtres de Gonzague. À la vue de ce dernier, le bossu baissa les yeux et salua respectueusement. Gonzague regarda encore son caillou.
« Nous saurons cela, murmura-t-il. Nous saurons tout cela.
J'ai l'idée que la journée vaudra la nuit. Va, mon ami Pérol, voici ma chaise. À bientôt. »
Pérol obéit. Monsieur de Gonzague monta dans sa chaise et se fit conduire au pavillon de Dona Cruz. En traversant les corridors pour se rendre chez Madame de Gonzague, Pérol se disait « Je n'ai pas pour la France, ma belle patrie, une de ces tendresses idiotes comme j'en ai vu parfois. Avec de l'argent, on trouve des patries partout. Ma tirelire est à peu près pleine, et en 24 heures, je puis faire ma main dans les coffres du prince. Le prince me paraît baissé. Si les choses ne vont pas mieux d'ici à demain, je boucle ma valise, et je vais chercher un air qui convienne davantage à ma santé délicate. Que diable ! D'ici à demain, la mine n'aura pas le temps de sauter. » Cocardas Junior et frère Passepoil avaient promis de se multiplier pour mettre fin aux incertitudes de Monsieur le prince de Gonzague. Ils étaient gens de parole. Nous les retrouvons non loin de là, dans un cabaret borgne de la rue Aubry-le-Boucher, buvant et mangeant comme quatre. La joie brillait sur leurs visages.
« Il n'est pas mort !» dit Cocardas en tendant son gobelet.
Passepoil l'emplit et répéta « Il n'est pas mort !»
Et tous deux trinquèrent à la santé du chevalier Henri de Lagardère.
« Ah, cap et débiou !» reprit Cocardas. « Nous en doit-il des coups de plat pour toutes les sottises que nous avons faites depuis hier au soir ?»«
Nous étions gris, mon noble ami, » reprit Passepoil. « L'ivresse est crédule. D'ailleurs, nous l'avions laissé dans un si mauvais pas. »«
Est-ce qu'il y a des mauvais pas pour cet coquin-là »
s'écria Cocardas avec enthousiasme.
« Ah, c'est pas pur ! Je le verrai maintenant lardé comme une poularde, que je dirai encore, son dieu, il s'en tirera. »
Le fait est, murmura Passepoil en buvant sa piquette à petite gorgée, que c'est un bien joli sujet. Cela nous rehausse fièrement d'avoir contribué à son éducation.
Mon bon, tu viens d'exprimer les sentiments de mon cœur. Qu'il nous donne des coups de plat tant qu'il voudra, je suis à lui corps et âme.
Passepoil remit son verre vide sur la table.
« Mon noble ami, reprit-il, s'il m'était permis de t'adresser une observation, je te dirais que tes intentions sont bonnes, mais ta fatale faiblesse pour le vin... »«
Morbiou !» interrompit le Gascon. « Écoutez, la caillou !
Tu étais trois fois plus gris que moi !»«
Bien, bien, du moment que tu le prends ainsi. »«
Hola, la fille ! Un autre broc !»
Il prit dans ses doigts longs, maigres et crochus la taille de la servante, qui avait la tournure d'un tonneau.
Coquardas le contempla d'un air de compassion.
« Et donc ? » dit-il. « Mon bon, mon pauvre bon, tu vois une paille dans l'œil de ton voisin. Ôte donc la poutre qui est dans le tien, bagasse !»
En arrivant chez Gonzague, le matin de ce jour, ils étaient d'autant mieux convaincus de la fin violente de la guerre d'air qu'ils s'étaient rendus dès l'aube à la maison de la rue du Chantre, dont ils avaient trouvé les portes forcées. Le rez-de-chaussée était vide. Les voisins ne savaient pas ce qu'était devenue la belle jeune fille, Françoise et Jean-Marie Berrichon. Au premier étage, auprès du coffre dont la fermeture était brisée, il y avait une mare de sang. C'en était fait. Les coquins qui avaient attaqué cette nuit le domino rose, qu'ils s'étaient chargés de défendre, avaient dit vrai. Lagardère était mort. Mais Gonzague lui-même venait de leur rendre l'espoir par la commission qu'il leur avait donnée. Gonzague voulait qu'on lui retrouvât le cadavre de son mortel ennemi. Gonzague avait assurément ses raisons pour cela. Il n'en fallait pas plus à nos deux amis pour trinquer gaiement à la santé de Lagardère vivant. Quant à la seconde partie de leur mission, chercher les deux braves qui avaient défendu Aurore, c'était chose faite. Coquardas se versa une rasade et dit « Il faudra trouver une histoire. »«
Deux histoires, » répondit frère Passepoil. « Une pour toi, une pour moi. »«
Et donc, je suis gascon. Les histoires ne me coûtent guère. »«
Je suis normand, pardienne. Nous verrons la meilleure histoire. »«
Tu me provoques, je crois, Péquerre. » »«
Amicalement, mon noble camarade. » Ce sont des jeux de l'esprit. Souviens-toi seulement que nous devons avoir trouvé dans notre histoire le cadavre du petit Parisien. »
Coquardas haussa les épaules.
« Capé des bioux » grommela-t-il en humant la dernière goutte du second broc.
« La caillou veut en remontrer à son maître. »
Il était encore trop tôt pour retourner à l'hôtel. Il fallait le temps de chercher. Coquardas et Passepoil se mirent à chercher chacun son histoire. Nous verrons lequel des deux était le meilleur conteur. En attendant, ils s'endormirent la tête sur la table, et nous ne saurions à qui des deux décerner la palme pour la vigueur et la sincérité du ronflement.